Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 5 mai. La campagne des législatives, les deux parachutages dans la 14e circonscription font réagir sur les réseaux sociaux et également sur le terrain. Pilule difficile à avaler également à Villeurbanne dans la 6e circonscription. L'accord aboutit à l'investiture du gendre de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amar. Nous reviendrons également sur ce projet d'installation d'une centaine de points de contrôle de vitesse. Projet qui avait été évoqué par la ville de Lyon il y a un mois lors de la mise en place de la ville. La communauté catholique s'apprête à rendre hommage à Pauline Jaricot le 22 mai prochain avec une cérémonie de béatification programmée à Eurexpo. La reconnaissance comme miracle de la guérison d'une petite fille de 3 ans par le pape François ouvre la voie à cette béatification. Reportage signé Cassandre Brault dans ce quart d'heure lyonnais. Quatrième volet de notre fil rouge consacré au végétal, direction le département de l'Ain pour découvrir un service de la ville de Lyon, le centre horticole, qui produit toute l'année plus d'un demi-million de plantes et d'arbustes destinés à végétaliser la ville. L'Olympique lyonnais à la première position de Ligue 1, peut-être pas en termes sportifs cette année, mais en termes de durabilité environnementale. Explication dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les deux parachutages dans la 14e circonscription, Taha Bouaf pour la France Insoumise et Bruno Attal pour Reconquête, font réagir sur les réseaux sociaux et sur le secteur concerné autour de Vénissieux. Michel Picard, déclaré candidate depuis janvier, a décidé de le rester, malgré l'accord qui unit désormais le PCF, la France Insoumise et le Pôle Écologie. Mais la maire de Vénissieux nie être dissidente. C'est le Parti communiste du Rhône qui maintient ma candidature et c'est la France Insoumise qui ne veut pas de Michel Picard, dit-elle. Autre candidat déclaré, le conseiller municipal d'opposition de Vénissieux, Lotfi Ben Khalifa, PS. Pour lui, la 14e circonscription n'est pas la terre d'accueil de ceux qui visent une carrière politique. C'est faire injure aux élus locaux qui s'investissent au quotidien. Lotfi Ben Khalifa attend la décision du bureau national et en fonction prendra sa décision. De son côté, le PS du Rhône estime qu'il serait dommageable que la grande alternative de gauche soit perturbée par la présence de candidats suscitant le trouble. Allusion à Taha Bouaf. De son côté, le député sortant La République En Marche, Yves Blin, évoque des candidatures pittoresques sur une circonscription qui n'a pas besoin de ça, mais plutôt besoin de sérénité. Damien Monchaud, candidat du RN et conseiller municipal d'opposition de Vénissieux, considère lui Taha Bouaf comme le candidat de l'anti-France. Pilule difficile à avaler également à Villeurbanne, dans la 6e circonscription. Christina Martineau, candidate désignée par le PS sur la 6e, a réagi à l'annonce du projet d'union entre la France Insoumise et le Parti Socialiste en vue des législatives. Accord qui aboutit à l'investiture du gendre de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amar. Dans le Rhône, le sort qui est réservé au candidat socialiste sonne comme un désaveu, écrit Christina Martineau. En parlant du candidat investi, elle estime que son atterrissage surprenant se résume en trois mots, népotisme, machisme et parachutage. Une discussion entre militants au sujet de cette union des forces de gauche est prévue ce soir. Christina Martineau estime que la parole des militants villeurbanais comptera pour prendre ensuite les bonnes décisions. Fin de citation.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le projet d'installation d'une centaine de points de contrôle de vitesse qui avait été évoqué par la ville de Lyon il y a un mois lors de la mise en place de la ville 30. À ce jour, aucun chiffre ni calendrier ne sont avancés. C'est ce que vient de préciser la préfecture. Il s'agirait pour l'instant d'une expérimentation lancée depuis 2021 par la délégation interministérielle à la sécurité routière dans plusieurs agglomérations à Belfort, Montpellier et Toulouse. L'idée est de tester les radars urbains. Les zones visées ou pressenties seraient naturellement les plus accidentogènes et donc pas forcément les nouvelles zones 30, mais plutôt les axes à 50. Une liste des voies concernées doit être établie à l'échelle de la métropole, puis validée. À ce jour, 37 radars fixes vitesse et 14 radars franchissement sont installés dans le Rhône. En 2021, toujours dans le département, 59 personnes ont été tuées et plus de 3000 ont été blessées sur les routes. Le 22 mai prochain, la communauté catholique rendra hommage à Pauline Jaricot avec une cérémonie de béatification programmée à Eurexpo. Pauline Jaricot est née à Lyon le 22 juillet 1799 dans une famille de soyeux. À 17 ans, à la suite d'un sermon entendu à l'église Saint-Nizier sur la vanité, Pauline se convertit, elle quitte sa vie fastueuse, prend les habits des ouvrières et sans entrer dans les ordres, fait secrètement vœu de chasteté. En 1819, sa vocation missionnaire la conduit à initier l'œuvre de la propagation de la foi pour financer les les missions étrangères. En 1826, elle fonde le Rosaire du Vivant. Proche des ouvriers de la soie, elle s'engage auprès d'eux lors de l'insurrection des Canuts et tente de fonder une usine respectueuse de la dignité humaine. Elle décède dans le dénuement en 1862. La reconnaissance comme miracle de la guérison d'une petite fille de 3 ans par le pape François ouvre la voie à cette béatification. Un reportage signé Cassandre Brault.
La béatification ne reconnaît pas le statut religieux d'une personne, c'est le fait de déclarer un chrétien bienheureux à la suite d'un miracle reconnu. Et ce miracle, quel miracle ! En 2020, le pape François attribue à Pauline Jaricot la guérison de la petite Méline. Cette cérémonie va donner l'idée à Marie et Olivier Malcoura de lui rendre hommage à leur manière. Aimer et agir, c'est le titre de ce livre qui retrace la vie de la missionnaire. Olivier Malcoura explique comment est née l'idée d'une bande dessinée.
Parce que la béatification approchait et qu'on s'est rendu compte très vite que c'était une figure assez peu connue dans l'Église et qu'elle méritait d'être connue. La BD est un bon média pour présenter un personnage parce qu'en 46 planches, on peut faire le tour de la question. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée, quoi.
Une bande dessinée pour mettre en image la vie de Pauline Jaricot à l'occasion de sa béatification. Mais elle n'aurait pas été possible sans la reconnaissance de la guérison miraculeuse de Méline. À l'âge de 3 ans, cette petite fille frôle la mort en s'étouffant avec une saucisse. Cette tragédie va bousculer la vie de famille. Elle est racontée par son père, Emmanuel Tran, dans son livre autobiographique « Sauvé par un miracle ». Il avait commencé cet ouvrage pour expliquer à Méline comment elle avait été sauvée. Au final, les premiers lecteurs sont les proches de la famille et ce sont eux qui vont penser à la reconnaissance de ce miracle.
Méline avait été qualifiée par certains de mes amis comme Miracle Méline, bien avant le miracle. Et finalement, des gens qui nous ont demandé de justifier en fait, son état de récupération. C'est une histoire magique et puis qui, au-delà du miracle, peut permettre à certaines personnes de prendre un sens différent dans la vie, quoi. La vie bascule vite et c'est très rare qu'elle bascule positivement dans l'autre sens, quoi.
C'est donc grâce à ce miracle que Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai prochain. Les participants seront accueillis à partir de midi et la messe commencera à 15h. Ce moment de recueillement permettra aux fidèles présents de se rendre disponibles pour Dieu afin qu'ils puissent agir et transformer les cœurs pour donner une force nouvelle.
Merci Cassandre. La cérémonie de béatification de Pauline Jaricot se tiendra, je vous le rappelle, le 22 mai à 15h à Eurexpo. Elle devrait réunir près de 13 000 catholiques du monde entier. Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, et le Centre Léon Bérard, le centre de lutte contre le cancer, proposent une conférence sur la pollution de l'air extérieur. Ce sera le lundi 16 mai à 18h au Centre Léon Bérard. Cette conférence sera l'occasion de faire un état des lieux de la pollution à Lyon, en France et dans le monde. Elle sera animée par Delphine Pro, épidémiologiste environnemental au sein du département prévention cancer environnement du Centre Léon Bérard et Yann Gross, toxicologiste des monographies au CIRC. Des experts de cette thématique seront également présents. Accès libre et gratuit, mais réservation obligatoire pour cette conférence sur le site centreléonbérard.fr.
Lyon demain ? Jardin perché.
Quatrième volet de notre fil rouge consacré au végétal. Direction le département de l'Ain pour découvrir un service de la ville de Lyon. C'est en effet à Misérieux, aux portes de la Dombe, que la ville a installé son centre horticole sur un terrain de 20 hectares. 16 agents s'emploient à produire toute l'année sous 5000 m² de serre, plus d'un demi-million de plantes et d'arbustes destinés à végétaliser la ville de Lyon. Nous avons rencontré Daniel Barboret, directeur du centre horticole de Lyon.
Un centre horticole, c'est un centre de production de végétaux pour alimenter les différentes équipes de la ville de Lyon, pour embellir les espaces verts de la ville. Donc on produit une grosse gamme de plantes, notamment toutes les plantes pour le florissement, annuelles, bisannuelles, plantes vivaces, dont on parlait tout à l'heure où la quantité a beaucoup augmenté, tous les arbustes et une partie des arbres tiges ou CP. Le restant est acheté chez des entreprises spécialisées. Donc tout ce végétaux transite par le centre horticole pour être redistribué en ville, dans les différentes équipes, les différents arrondissements.
Qu'est-ce qui se passe ici au quotidien ? Qu'est-ce que font les employés ?
Eh bien tout, de la multiplication des végétaux jusqu'à leur commercialisation, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire on commence par la multiplication, par semis, par bouture. Après il y a des phases d'élevage, de rempotage, de transplantation. fabrication. Et après, il y a les phases de commercialisation, c'est-à-dire la préparer la marchandise, enfin la plante quand elle est prête à être distribuée. Et puis après, l'organisation du transport, la logistique transport pour acheminer les plantes sur la ville.
Le mode de choix des plantes a changé avec le réchauffement climatique ?
Oui, terriblement. On a revu depuis 2 ans toute notre gamme végétale, aussi bien arbres, arbustes que plantes vivaces. Toutes les plantes qui résistaient mal à la sécheresse et aussi à l'ensoleillement très fort, on les a sorties des gammes et on a rajouté des gammes un peu plus typées sud, un peu plus méditerranéennes, de façon que ces plantes résistent plus au changement climatique. Donc on a 1200 espèces en tout. On travaille avec 1200 espèces réparties dans les 3 familles de plantes que je viens de citer.
La ville de Lyon s'autosuffit en termes de plantes, c'est-à-dire que tout est produit ici ?
Non, alors c'est autosuffisant pour le fleurissement annuel, bisannuel. Après, on achète un petit peu quelques plantes vivaces qu'on n'a pas forcément la capacité à produire parce que soit on ne trouve pas de graines, soit on ne trouve pas de plants et tout ça. Donc à ce moment-là, on achète des plants finis. Et après, les arbustes, 25-30% on achète, tout le reste est produit ici. Et les arbres, tous les arbres tiges, on les achète parce qu'on n'a pas la technicité pour faire des arbres tiges, mais par contre on fait des CP, des formes qu'on a la maîtrise technique. Voilà. Mais tout ne sort pas d'ici, mais on va dire 80% des végétaux sortent d'ici.
Quelques exemples de plantes un peu extraordinaires qui sont ici ?
Dans le fleurissement, on travaille beaucoup avec des alstromères, c'est des plantes un peu nouvelles, qui reviennent à la mode un peu parce qu'elles sont résistantes et elles ne demandent pas trop d'eau, donc voilà, ça c'est une gamme de plantes un peu pour le fleurissement. Et puis aussi des plantes typées méditerranéennes, beaucoup de des espèces de sauge. Puis après, des arbres typés sud, les micocouliers, les sophoras, les chênes, voilà.
Daniel Barboret, directeur du Centre Horticole de Lyon. La ville de Lyon est engagée dans une démarche zéro pesticide depuis 2007. Elle est détentrice du label 4 fleurs depuis 2017. Un classement effectué par Sport Positive, une ONG anglaise, place l'Olympique Lyonnais à la première position de Ligue 1 en ce qui concerne, non pas le plan sportif cette année, mais la durabilité environnementale, les impacts environnementaux de l'organisation d'un match de foot et les initiatives en cours dans les clubs sont répertoriées pour aboutir à un classement où l'Olympique Lyonnais est en tête avec 16 points sur 25 possibles. L'Olympique Lyonnais qui devance Clermont et Saint-Étienne dans ce palmarès écolo. Basket, l'ASVEL devient seul leader après sa victoire à Gravelines, auteur d'un match sérieux sur le parquet des Nordistes ce mercredi soir. Victoire des Villeurbanais 86-96. Les garçons de Tony Parker sont seuls leaders du championnat à 2 journées de la fin de la saison régulière. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.